Les regards de Léa, tome 1, dernier épisode. Antoine a reçu le diagnostic du numérologue. Il en ressort que son code utilisé dans l'annonce correspond à une forme de détermination astronomique. Il n'y a pas cru, s'en est moqué en compagnie de Jacques, le serveur du Baricou. Ce, d'autant plus que s'étant rendu au troisième rendez-vous, où Léa n'est pas venue, il a croisé Cécile, qui lui indique avoir remis le journal à Léa, et même avoir, avec elle, décodé l'annonce. Antoine comprend que son pari garde très peu de chances d'aboutir, il ne reste que le dernier rendez-vous, 11 mois plus tard, autant faire de Léa un simple souvenir.
Chapitre 7. Un peu avant 31 536 000 secondes plus tard. Gavé de somnifères, Antoine fut réveillé par le soubresaut de la carlingue. Les trains arrière y perdent sur le béton. Le brouillard orliesque des petits matins d'octobre noyait les pistes, le tarmac et les rez-de-chaussée de l'aérogare. Les sorties de hall déversaient des centaines de fantômes qui disparaissaient dans la grisaille. Le chauffeur de taxi tenta une conversation qu'Antoine se garda de relancer. Il laissa le ronronnement du moteur se glisser entre eux. Cet aller-retour en 48 heures lui pesait. Depuis le printemps, il vivait au Québec. Mais comme avait dit Marc, une boucle mal fermée, ça devient forcément une spirale. Alors pars et reviens vite. Au cours d'un de ses passages à Paris, il avait convaincu Antoine de s'installer au Québec. Les deux hommes s'étaient retrouvés à l'atelier. Marc lui avait lancé « Dis-moi un truc, Antoine. En fait, tu glandes quoi à Paris ?»« Excellente question. » « Justement, oui. Tu végètes, je pense. » Difficile de cacher ça. Depuis le retour de Vaitap et l'immersion parisienne, leur amitié avait évolué. Ils se confiaient. Après le troisième rendez-vous manqué, Antoine avait traversé un mois de décembre très glauque, plongé dans une atmosphère déjà éprouvée. Des filles, beaucoup, rarement gratuites et plus pressées qu'avant, de l'alcool, trop, et une silhouette qui s'épaississait à vue d'œil. Au moment du séjour de Marc, il avait pourtant commencé à changer de rythme. Depuis quelques semaines, pour ne plus être tenté de retourner à la station, il avait modifié son itinéraire, se rendait et revenait de son travail en marchant 2 bonnes heures par jour. Cet exercice quotidien l'invitait à revisiter son corps, ses manques, son vieillissement. À nouveau, il s'essayait à la peinture, mais ses synapses préféraient des données plus rassurantes. Elle ne se connectait plus qu'avec des algorithmes complexes. Le directeur de l'agence était ravi. En réalité, il complimentait un zombie qui résonnait en roue libre, un hamster du développement financier. Des nuits très courtes. Il appréciait surtout les nuits très courtes. Et malgré cette velléité qu'il tentait de préserver pour aller jusqu'au bout de son pari, son moral flanchait. Marc ne s'y était pas trompé. « Tu dépéris, mon ami. Tu t'étioles. Et même ça, tu le fais mal. » Je suppose que tu es encore plongé dans tes fadaises de regards croisés et le délire avec cette femme. Il connaissait les grands traits de l'histoire, avait un peu suivi l'épisode d'octobre, écoutait l'histoire de la rencontre avec Léa. Lui, Antoine, livrait peu de détails. Il voulait esquiver les railleries, plaisantes certes, mais là vraiment, pour Léa, Marc était si loin de tout ça. Antoine le voyait voleter avec bonheur aux antipodes de ce que lui-même avait été capable d'organiser pour sa propre existence. Un parcours professionnel réglé comme du papier à musique, beau mec, clarinettiste de jazz, une vie saine, un boulot lancé sur des rails, une campagne composée sur un perchoir d'éternité, 2 enfants propulsés vers de brillantes études. Où trouve-t-il le temps de réussir tout ça ? Se demandait Antoine, envieux. Avec lui, je me sens le clochard invité par une association caritative à un opéra de Noël. Et ce soir-là, assis sur le canapé où s'était déroulée en partie sa série de souleries exploratoires, Marc paradait sans le savoir sur son char d'aisance, un peu l'homme mûr qu'Antoine aurait aimé devenir. Et cette évidence imposée, ajoutée à ce « tu glandes quoi ?», l'avait agacé. « Écoute, » avait enchaîné Marc très vite, « le groupe s'agrandit. » Nous ouvrons 4 nouvelles succursales et nous cherchons un responsable pour le secteur communication qui se renforce. Certes, c'est moins excitant que ton poste actuel, mais c'est quand même bien payé, une autre énergie. En plus, tu as déjà fait ça, qu'en dis-tu ? Antoine avait hésité à envoyer balader Marc et sa proposition généreuse.
L'horreur, cette com institutionnelle et son langage en béton armé, je la connais par cœur, sa sémantique stéréotypée. Elle transpire à grosses gouttes glaciales. C'est en même temps tous les avenirs promis par le GIEC, le G20 et tous les Atali réunis.
Il s'était retenu. La perspective de modifier l'alchimie de son cocktail parisien lui avait paru très opportune. Plus tard, il pourrait toujours rebondir. On verrait pour le dernier rendez-vous avec Léa. Au pire, ce ne serait qu'un coup d'avion aller-retour pour honorer la quête. Antoine avait répondu « Je m'engage pour 3 ans, ça peut le faire ?»« 3 ans, c'est bien. Après, tu décideras. » Ils avaient terminé la nuit à boire. Lui, du whisky, sans faiblir. Et Marc, du jus de pomme, bien sûr. Antoine s'était endormi sur le canapé. Avant l'aube, Marc avait quitté l'atelier. Début avril, Antoine s'était installé à Montréal. Brouiller les pistes, battre les cartes et redistribuer. Idée efficace. De ce nouveau placenta nord-américain était née très vite Clémentine, avec un K. « J'y tiens vraiment », avait-elle lancé à Antoine dès leur premier échange. « Ça freine l'envie d'enchaîner avec la chanson. Ah, vous ne connaissez pas « My darling Clémentine », etc. » Elle chantait rock. Il avait ri. Clémentine, rencontre droite, limpide. Une fin d'après-midi de juin, Antoine buvait un verre au lobby lounge de la rue Papineau, un bar au mur de briques apparentes, supposé branché parce qu'on y côtoie des gens aspirant à l'être ou jouant à le devenir. À condition de quitter les lieux avant les premiers trémoussements coïto-techno, il est possible de passer un bon moment. Antoine avait contemplé cette femme, assise à l'extrémité de la salle. Elle scrutait sa montre régulièrement, tout en lissant une frange blonde qui lui barrait le front. « Contempler » était le mot qui s'était imposé, avec ses conséquences. Une prise en otage consentie grâce à une somme de détails, tous intimement reliés par l'architecture des attitudes. Élancement de la nuque, port du regard, courbe du poignet, abandon des doigts sur le cuir de la coudoir, rythme d'une jambe croisée, redoutable déhanchement, enfin, qui murmurait « Je suis d'ailleurs ». Toute pensée consumée par le spectacle, il n'avait pas réalisé qu'elle quittait sa table pour s'approcher précisément de lui. Ayant déposé son verre, une sorte de mouvement gracile accompagné de la juste énergie, elle s'était installée face à lui, sur le siège voisin. « Installé n'est pas le bon mot », avait-il pensé. Il en avait cherché un autre. « Pris place » lui avait paru faible. « Il faudrait inventer prise univers », avait-il conclu. Car si la partie du bar où cette femme s'était tenue 30 secondes avant lui avait appartenu tout entière par le seul fait de sa présence, celle où elle venait de se transporter avec grâce, ce tabouret en bois brun, le laminet blanc du comptoir, et lui-même, Antoine, qui badait sans rien comprendre, en fait, toute cette ambiance et l'intégralité de ces atomes n'existaient plus alors qu'à travers elle. Il était tombé amoureux de cela, avant de lui avoir adressé la parole. Puis il avait reçu son parfum, un peu épicé, le forçant à évoquer le souvenir d'un autre, déjà lointain, celui de Léa. « Et si je tends 3 fois autour de votre chaise, vous allez vous dévisser la tête pour ne pas me quitter des yeux ?» Pas d'accent. Antoine en avait déduit son origine française. L'élégance vestimentaire semblait soutenir l'hypothèse. Il avait répondu « Pardonnez-moi, je suis confus. Ne le soyez pas, c'est toujours agréable d'être remarqué. » « C'est plus que ça. » Elle avait ébauché un regard, puis avait continué « Si nous jouions franc jeu ?»« Pourquoi pas, ça changerait. » « Ok, vous avez votre vie, moi la mienne. Vous approchez la 50aine, moi un peu moins. » Parions qu'il y a une chance sur 1 milliard pour que cette rencontre puisse provoquer autre chose qu'un léger vacillement. Entrons dans la danse sans aucune question. Qu'en pensez-vous ? Rare et parfait. Elle avait ri. Sans plus réfléchir, Antoine avait topé là. C'était à la fin du mois de septembre, en plein automne, illuminé de roux. Il y a 1 an, s'était-il souvenu, je commençais la rédaction du carnet. Le taxi empruntait maintenant le boulevard du Temple. Antoine ne parvenait pas à quitter la sensation de Clémentine. Calme et sucrée comme une journée de printemps, sans vent, avait-il plaisanté un jour. « Tu es comme ça. »« C'est ça, je suis ta confiture en fait. Mon miel plutôt, si ça ne te dérange pas. Tant que je ne suis pas ton pot de colle. » Il n'évoquait jamais leur relation autrement que par métaphore. Antoine aimait ça. La veille au soir, sur la route de l'aéroport, elle avait murmuré à l'oreille d'Antoine « Je te dépose et je repars. » Debout dans le hall, sa valise dans une main et une pluie de mots ténébreux au bord des lèvres, Antoine l'avait embrassée. Elle ne connaissait rien de l'épisode métromaniaque d'Antoine, ni du reste. Elle n'avait pas demandé les raisons de son absence pour 2 jours. Elle avait juste chuchoté « Antoine, prends soin de toi ». Puis elle avait posé la joue sur son épaule. « Antoine ?»« Oui. Notre jeu a changé, tu le sais. Nous allons peut-être vers autre chose qu'un vacillement. C'est une certitude maintenant. » En prononçant ces mots, il avait pressé leurs 2 mains sur sa poitrine. Il avait pensé « Mon pauvre gars, tu dois ressembler à un condamné à mort qui attend la lecture de son recours en grâce. » Clémentine s'était arrachée à leur étreinte pour se perdre très vite dans la foule. Plus tard dans l'avion, Antoine l'avait imaginé, gardant ce maintenant en mémoire, sans comprendre qu'il ne s'adressait pas à elle. Mais à une autre proximité temporelle, à ce rendez-vous qui allait peut-être en un seul instant, en une seule femme, rassembler tous les possibles de son passé, ses non-choix fantasmés, ses alter désirs. Léa, dernière descendante de ce monde parallèle où avaient partousé sans le savoir les regards féminins de son existence terrestre. Cette dynastie avec qui, en réalité, il refusait éperdument, blotti à l'abri des vitres fumées, il en convenait tout à coup, de partager le quart de vie qui lui restait à parcourir. Mais il fallait bien en finir sans regret, fermer la boucle pour accéder enfin à cet amour libre, Clémentine peut-être. Pour cela, il acceptait aujourd'hui une dernière fois de prêter allégeance au Paris. Acceptant d'emprunter cet avion, puis ce taxi, qui à présent longeait rapidement le Baricou, tournait dans la rue des Filles du Calvaire et se garait sur l'aire de livraison. 9h45.
Le temps est pluvieux, comme l'an passé.
Il marchait vers l'entrée de la station.
Ce qui serait drôle, c'est que son métier l'empêche totalement de venir à cette date. Auquel cas, c'est loupé.
Hypothèse vite oubliée, car une conclusion plus réaliste s'imposait. Bras ballants et son sac de voyage entre les jambes, il prenait connaissance du panneau fixé sur la grille. Station fermée pour travaux. La direction RATP vous remercie de votre compréhension. Ouverture le 29 octobre.
C'est un spécialiste en statistiques que j'aurais dû consulter. Ça aurait été plus efficace que l'autre chaman des chiffres.
9h50. Attablé à l'angle de la terrasse vitrée du Baricou, Antoine pouvait surveiller le trottoir sur toute sa longueur, le carrefour et l'écran géant du cirque d'hiver, les guerriers toujours là. Si Léa se présentait, il l'apercevrait. Bien des choses avaient changé en 7 mois. Le patron avait acheté un écran plat, la radio beuglait des pubs, Mohamed avait transmis le commerce à son fils, la boutique de jeans était close et Jacques était en congé pour 15 jours. Quant à Cécile, fugace messagère, il ne fallait pas l'espérer. Antoine tournait machinalement sa cuillère dans la tasse.
Fermez ta station spatio-temporelle. Et sans te prévenir, toi, le fondateur. Ah, c'est ça, mon pote. Tu aurais dû relire Asimov. Le temps multiplie les hypothèses de manière exponentielle, donc le temps n'est pas ton ami.
10h08.
Qu'elle vienne ou pas, en fait, je crois bien que je m'en fous royalement. Je suis là pour l'admettre, c'est tout.
Il ruminait son aigreur, sans vraiment identifier ce qui l'affectait le plus. L'absence de Léa et le décès de sa quête. Ou bien les germes d'incompréhension semés dans la conscience de Clémentine. Oh, le risque absurde de les voir éclore. Fallait-il vraiment payer ce prix pour obtenir la seule réponse utile à la fin de ce calvaire ? Un bonheur coupable l'envahissait. 10h13. Sans plus attendre, il abandonna le Baricou. En marchant sous la pluie, il composa le numéro de Marc. Il était 4h à Montréal. « Salut Marc, tu dors pas, je suppose. Tu sais bien que c'est l'heure où je débute ma journée, ça va ?»« Bien oui, ça va très bien. Tu rentres alors ?»« Oui, comme prévu, par l'avion de demain. »« Ok, on sera là. » Bien, merci. Peux-tu prévenir Clémentine et la rassurer? Je ne peux pas la joindre sur son portable. Elle vient dîner ce soir. Ah, je l'appellerai alors. C'est mieux, oui. Je me rends à l'atelier en ce moment. Rien de spécial ? Non, rien. Vois avec le colloque si tout va bien. Ciao, mon frère. Ciao, à demain soir.
Marre de la pluie.
Il est là, un taxi. Chapitre 9. Presque une demi-heure après un an plus tard.
Ma vie n'est plus ici.
Antoine pénétrait dans l'impasse. La pluie cessait. Un rayon de soleil s'écoulait depuis le haut des façades. Plusieurs fois, Marc avait failli revendre l'atelier. Mais ses lointaines années d'artiste, la présence d'Antoine, ses voyages en France, leurs soirées, toutes ses traces, en fait, une addition de liens, l'avaient convaincu de ne pas s'en séparer. Le déménagement d'Antoine à Montréal n'y avait rien changé. Marc avait dit « Écoute Antoine, c'est pratique ce lieu à Paris. Avec ce gars, je maintiens le même deal qu'avec toi. Ça nous fait un pied à terre. Toi ou moi, c'est pareil. Il est prévenu. Donc, si tu as envie de séjourner en France, et puis, tu rendras bien visite à ta fille de temps à autre, non ?» Antoine ne l'avait pas contredit. Il n'avait pas revu Suzy depuis 2 ans. Elle était devenue femme, sûre d'elle. Ou bien, elle le paraissait. Elle ne manquait jamais d'asséner à son père ce qu'elle pensait de ses errances de célibataire alcoolisé. Suzy insistait avec tendresse. En sa présence, Antoine se sentait fléchir, se disant qu'elle avait raison. Il fallait bien sûr cesser de vivre seul, renoncer aux chimères. Allait-il vieillir comme ça? Un soir, elle avait surgi au moment où il sortait dans la cour en compagnie d'une éphémère conquête rencontrée la veille dans la boîte de nuit voisine. « Papa, je t'ai prévenu que j'arrivais. » Il avait oublié. « Installe-toi, ma chérie. Ton père revient très vite. Il raccompagne madame. » Il lui avait lancé les clés en s'esclaffant, puis s'était éloigné. À son retour, le trousseau baignait dans une flaque d'eau. Sur la porte, pas un mot. Il avait hurlé sa colère en claquant le bâton derrière lui. Sans nouvelles, il avait téléphoné plusieurs fois, en vain. Il avait écrit, tardivement, pour annoncer son départ. Il patientait maintenant. Chaque jour, une petite douleur l'assaillait. Elle venait de surgir à nouveau, ici, plus aiguë. Avançant sur l'alignement chaotique des pavés humides, il renouait avec l'ambiance de l'impasse.
« Bonjour Antoine, je vous attendais. »
De loin, sans y prêter attention, il avait discerné une silhouette sombre, appuyée au mur, les mains rassemblées dans le dos. Elle se tenait debout près de l'entrée de l'atelier. Sa voix le fit tressaillir. Très long manteau noir, coiffure libre, lunettes solaires sous lesquelles disparaissait cette ride inscrite sur la pommette droite. Antoine cherchait une différence avec le jour de leur rencontre. Il n'en décelait aucune. Il tenta une réponse qui s'étrangla un peu.
« Vous m'avez fait peur !»«
Pardonnez-moi, ce n'était pas mon intention. »
Elle souriait. Antoine tenta de se ressaisir.
« Mais que faites-vous là ? C'est impossible !»«
Mais je viens de vous le dire. Je vous attendais. »«
Vous m'attendiez ? Vous ne pouvez pas ? Et puis d'abord, c'est moi qui vous ai attendu. »
On dirait un gamin à qui on a changé les règles de son jeu.
Oui, je sais.
Vous savez. Mais vous savez quoi?
Le sentiment de perdre pied le gagnait.
Vite, vite, démêle. Démêle le plaisir de la revoir, de ta décision de rentrer.
Je ne comprends rien, Léa. Expliquez-moi. Vite.
D'accord. Si je vous dis que vous avez construit une énigme et que je suis là pour la résoudre avec vous. Ça vous aide un peu?
Non, rien du tout. L'énigme dont vous parlez n'existe plus. Vous avez lu l'annonce, on vous l'a remise pour moi, vous l'avez décodée, je le sais. Et vous voilà ici, avec vos propres règles. Il n'y a plus rien à résoudre.
Il aspira une grande bouffée d'air avant de continuer.
Et pourquoi me revoir ici? Et comment savez-vous que j'y habite? D'ailleurs, je n'y habite plus.
Ah, donc... Arrêtez, Antoine. Ça, ce n'est rien. À peine une partie du mystère de notre rencontre. L'important n'est pas là.
Ah oui? Vraiment? Et quoi d'autre?
Et notre regard? À la station?
Lui. Ah oui, lui.
Après 7 mois au vert, Antoine rencontrait soudain son ancien complice. Le serrait dans ses bras. Reniflait l'odeur des braquages, des filles partagées et des 30 ans de tôle pour finir. passait les grandes claques dans le dos, il se jetait dans un bar. Et là, une fois les souvenirs épuisés, il s'observait de travers, espérant qu'aucun des deux ne prononcerait la phrase fatale. « T'es sur un coup, toi ?»
Notre regard. Vous plaisantez? Je vous ai tout dit ce jour-là. Sans parler de cette annonce. J'étais l'Einstein de la rencontre. Vous vous souvenez?
Très bien, oui. Mais il y a autre chose.
Cette accumulation de suppositions ambiguës l'irritait. Le soleil se voilait. Un vent plus frais s'engouffra dans l'impasse.
Bon, Léa, je vous propose d'entrer et de terminer cette discussion à l'intérieur.
Attendez, pas tout de suite. S'il vous plaît, Antoine.
Bon, comme vous voudrez. Je vous écoute.
Approchez un peu.
Il avança d'un pas vers elle et retrouva son parfum, familier, oublié, à nouveau présent, l'entourant, l'obligeant à un retour brutal à la station, à la durée de son regard capturé. Le revoir, oui. Et maintenant, la peur de s'y perdre. Elle reprit.
Je n'en ai pas pour longtemps. Je vous dois une énigme. Elle est liée à la vôtre, mais beaucoup plus facile à comprendre.
Léa, je ne crois pas.
Chut ! Patientez jusqu'au bout. Et après, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez. Voici. Comme vous le constatez, je me tiens devant vous. Vous pouvez en retirer deux certitudes. Je ne vous ai pas oublié et j'ai à nouveau envie de vous rencontrer. Pour ma part, j'en ai deux également. Vous m'avez vu il y a un an et depuis, vous êtes venu à chaque rendez-vous.
Et comment pouvez-vous savoir ça?
Il voyait poindre des révélations en cascade, une Cécile ambiguë. Elle avait revu Léa et lui-même avait été facile à pister ensuite. Facile aussi de savoir, en causant un peu avec le locataire, que oui, Antoine passerait fin octobre. Le 28 n'étant plus qu'une déduction. Oh non, ne lui dites rien, s'il vous plaît. Je suis une très vieille amie, c'est une grande surprise. Cécile devait même traîner du côté de la station ce matin. Elle avait pu avertir Léa qu'Antoine arrivait, sûrement. Peut-être même Jacques était-il complice sans le savoir. Il avait bien parlé de ces deux nanas qui l'avaient aidé à déchiffrer quelque chose.
Chut, Antoine. Plus tard, je vous expliquerai pour Cécile. Mais je le sens. Vous arrivez maintenant devant moi, déçu d'avoir perdu votre pari, presque soulagé de mon absence à la station. L'affaire était close, en quelque sorte. Si, si, ne protestez pas, je le devine au ton de votre voix.
Où voulez-vous en venir?
Il se sentait un peu nauséeux.
À ceci. Les certitudes que nous possédons tous les deux ne nous mènent à rien. Si nous ne tentons pas de résoudre finalement le seul mystère que nous partageons intimement, je veux parler de ce regard.
Mais ce mystère, il ne tient qu'à ces quelques secondes. Je vous l'ai dit, c'est sa durée, son intensité et l'envie d'y rester qui était unique et puissante. Je vous ai tout expliqué, Léa. Que pouvez-vous ajouter à ça? Ces 10 secondes, je sais que vous n'y avez pas cru, ou pas vraiment. Vous êtes ici pour une autre raison.
C'est exact. J'aurais dû l'avouer sur l'instant.
Alors?
Léa poussa un soupir. Libérant sa main droite, elle la glissa dans ses cheveux pour ramener une mèche derrière l'oreille. Puis elle se redressa. Elle se tenait maintenant à quelques centimètres du visage d'Antoine. Il recevait son souffle sur ses lèvres.
J'ai le cœur en vrac. Totalement en vrac. Je pourrais l'embrasser. Tout de suite. Et pour qu'elle se taise.
Antoine. Tout part de ces 10 secondes, disiez-vous?
Léa glissa un court objet entre eux deux et le maintint sur leur poitrine. De sa main restée libre, elle ôta ses lunettes et les laissa suspendues sur le haut de ses seins. Elle murmura.
Voici.
Antoine entendit un léger craquement. Il baissa les yeux, aperçut une canne blanche télescopique qui venait de se déployer. Et relevant la tête, il rencontra, éteinte, les pupilles de Léa. Et cette impasse, le vent qui tourbillonnait entre leurs corps, les chocs et raclements métalliques de livraisons lointaines, la pluie, éparse à nouveau et qui les rejoignait, plus rien de tout cela ne lui parvenait. Il chuta vers ses lèvres. Et alors que l'effleurement provoquait leur sens, il entendit le son mat de la canne qui heurtait le pavé. Les paupières de Léa retombèrent sur la nuit. Humait, goûtait, explorait, esquissait par ses mains, la nuque d'Antoine, son cou et son visage en entier n'existaient plus que par l'effleurement du bout des doigts de Léa. Elle florait les plus petites parcelles de peau accessibles. Elle dessinait le portrait de l'homme qu'elle n'avait pu qu'imaginer.
Elle recueille ma chair. Elle fabrique mon image.
Cela suscitait chez lui l'émergence d'une sensation inconnue, le bris de chaîne dont il avait occulté la réalité. Ce postulat de belle gueule, beaux yeux, comme disait Cécile, en fait une charge, tout un esclavage dont il avait convenu dans les limbes confus de son adolescence, qu'il valait mieux en jouir jusqu'à l'extrême, puisqu'il lui était imposé. Ainsi, l'identité masculine construite à l'époque avait-elle enfermé avec elle la certitude d'éclore, puis de s'affirmer d'abord, et avant tout, par le regard des femmes. Un territoire si vaste. Le découvrant, il l'avait magnifié. On avait fait son royaume. Et lui, devenu voyageur, parfois souffrant, parfois jubilant, avait acquis le pouvoir d'une intuition troublante, grisante, reconnue. Ces 10 secondes n'étaient peut-être que ça, se disait-il, mais elles étaient ça. Une voix lointaine résonnait en lui.
Antoine, le cheminement vers le but modifie les hommes de manière aussi certaine que le bonheur de l'accomplissement.
La sienne, nouvelle, s'élevait. Seul compte le regard intérieur, tu vas devoir choisir. Et en même temps que le parfum de Léa s'imposait, étoilé enfin, intimement relié au silencieux sillage de rouge rue Mirabeau, à nouveau la voix ancienne, masculine, reconnue, s'immisçait.
Il n'y a pas d'amour libre, Antoine, uniquement des amours libérés de leurs entraves.
Léa, son corps, tout son corps à travers les vêtements et l'ensemble de tout ce qu'elle pouvait mettre en contact par ses mains, et son visage n'était plus qu'une seule palpitation. Léa, qui avait attendu un an pour retrouver un homme dont elle n'avait jamais croisé le regard. Elle, qui ce matin-là, sans doute connaissant par cœur cette station, avait pris le risque insensé de la dissimulation, inventant ses gestes, simulant à s'y méprendre, et voulant vivre, oh vivre, le plaisir d'exister autrement, sachant que l'aveu, sur l'instant, eût été d'un prix trop élevé. Léa se livrant nue à l'intuition d'Antoine. Elle la reconnaissait et s'y abandonnait.